Après, il va falloir trouver votre psy. Et là, vous ouvrez les pages jaunes, vous cherchez sur Internet, il y a des psychologues, des psychiatres, des psychopraticiens, des psychanalystes, des psychothérapeutes, des thérapeutes de couple, des thérapeutes en thérapie brève, des praticiens de l'hypnose, des sophrologues, tout ça un peu mélangé, vous savez pas très bien vous y repérer, vous savez pas très bien qui fait quoi, qui a quelle compétence, est-ce que ça va correspondre à ce dont vous avez besoin, est-ce que la personne a de la bouteille, bon, ça fait déjà pas mal de choses. Parce que, en fait, même psychologue, par exemple, bien, il y a des neuropsychologues, il y a des psychologues plus branchés psychanalyse, il y a des psychologues qui font surtout du travail de soutien humaniste, il y a des jeunes psychologues qui se lancent en cabinet parce qu'ils n'ont pas trouvé un job ailleurs, enfin, il y a un peu de tout, là aussi, hein. Bon, comme dans beaucoup d'endroits, mais enfin, peut-être encore plus, là, dans le domaine des psys, parce que psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, c'est pas exactement pareil, par exemple. Qu'est-ce qui va vous correspondre? Donc déjà, s'y repérer dans les psys. Une fois qu'on s'y repérer dans les psys, il reste à savoir aussi s'y repérer dans les pratiques psychothérapiques ou dans les pratiques de soutien, dans les pratiques d'aide. Il y en a des tonnes. Il y en a, paraît-il, 400, de toutes sortes, chacune annonçant des excellents résultats, évidemment, et je vous dirai pourquoi. Même si on résume, si on essaye de resserrer l'éventail et qu'on s'en tient aux psychothérapies ou aux approches psychiques les plus pertinentes, je vois sur Wikipédia, à l'heure actuelle, la liste des psychothérapies en dénombre 59. À l'heure actuelle. Et encore, ils n'intègrent pas la sophrologie, le yoga, la méditation de pleine conscience, la thérapie de couple, etc., etc. Alors, en plus, toutes ces psychothérapies soulignent leurs spécificités, leurs différences. Elles ont toutes des bonnes raisons pour dire qu'elles sont excellentes. Pourquoi? On va voir. Et aussi, il y a une sorte de marée de sigles. Il y a la PNL, il y a l'AT, il y a la TBCS, les TCC, etc. Voilà, il va falloir comprendre quel est le sigle en question. Une marée de livres. Si vous allez dans les bibliothèques ou les librairies, vous verrez à quel point il y a des centaines de livres sur la psychologie et sur la psychothérapie. Comment s'y repérer ? Alors, je vais essayer de vous aider à faire un peu le tri entre ces centaines d'approches. Il y a, en gros, bien sûr, on pourrait détailler, mais en gros, il y a trois types de thérapies. Les thérapies recouvrantes, les thérapies découvrantes et les thérapies axées sur le changement. Alors, recouvrantes. Recouvrante, ça veut dire on a un symptôme, on a des douleurs, on a des angoisses, on est mal dans sa peau. Recouvrante, ça va essayer de calmer le jeu, de recouvrir le symptôme, de recouvrir la pathologie par quelque chose qui va calmer le jeu. Alors, ça va être de la relaxation, ça va être de la visualisation positive, ça va être des maximes auxquelles on va s'accrocher pour essayer de ne plus souffrir, de ne plus penser à ses angoisses, à ses phobies, à ses craintes. Bon, d'une certaine manière, les anxiolytiques, les antidépresseurs, tous les médicaments sont des approches recouvrantes. C'est-à-dire, on va essayer de stopper le symptôme, de stopper les angoisses, de stopper la dépression, de calmer le jeu. C'est tentant. En tant que patient, il y a bien une chose à laquelle on aspire, c'est que ça s'arrête. Le problème, c'est que recouvrant, souvent ça ne tient pas longtemps, parce que en fait, on s'est contenté de mettre un pansement sur quelque chose qui fait souffrir, sans véritablement en comprendre les origines et le travailler pour le faire changer. Hein. Donc, il y a ça. Est-ce que je vais faire de la relaxation, faire de la sophrologie, faire des tas de choses comme ça, et me calmer très vite, mais si ça ne tient pas, est-ce que ça vaut le coup? Donc tout un tas de thérapies qui sont recouvrantes. Il y a tout un tas de thérapies qui sont découvrantes. C'est-à-dire au contraire, elles vont essayer d'aller sous le symptôme et de voir, de découvrir l'origine, d'aller vers l'abcès douloureux qui suscite la fièvre, qui suscite je ne sais quoi, hein, si on prend cette comparaison, et qui vont vous inciter à aller vers l'émotionnel que vous essayez de contenir tant bien que mal. Alors le cri primal, la psychanalyse, l'analyse bioénergétique, le psychodrame, enfin il y a plein d'approches découvrantes, qui sont tout le contraire de la méthode Coué par exemple. Hein. C'est bien, mais aussi c'est inquiétant, parce qu'on va aller vers ce qui fait souffrir, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas non plus si ça ne va pas faire trop mal d'aller retrouver ces racines-là, etc. Donc il faut vraiment être en confiance avec le psy et avec la méthode pour oser y aller, quoi. Et il y a un troisième type de thérapie qui a été, qui est relativement récent, enfin si on peut dire à l'échelle des thérapies, qui sont les thérapies de changement, axées sur le changement. En particulier toutes les méthodes de Palo Alto, la systémique, etc. C'est-à-dire l'idée, c'est que peut-être il faut pas forcément trouver les origines, pas forcément recouvrir le symptôme, mais aborder le problème dans lequel on est pris d'une façon différente, et que ce changement d'attitude et ce changement de façon de faire va amener une transformation de ce qui auparavant était le problème dans lequel on était coincé. Découvrante, recouvrante, changement. Il y a déjà un choix à faire entre ces différentes approches. Alors, il y a déjà choisir son psy, il y a déjà choisir sa méthode thérapeutique. Autrement dit, la personne qu'on va consulter, quel savoir elle a acquis, et aussi quel savoir-faire elle pratique. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Le problème, c'est que dans toutes ces psychothérapies, un des éléments fondamentaux, c'est le savoir-être, c'est la qualité de la personnalité du psy. Et ça, c'est vachement difficile à repérer. Et je vous dirai comment faire. Parce que, en fait, c'est un élément fondamental. Pourquoi? Pourquoi c'est fondamental? Alors qu'on pourrait dire, ben, il y a tel problème, il faut appliquer telle technique et ça va donner telle solution. Ça serait bien, mais ça serait trop simple. En réalité, dès qu'on est en relation avec quelqu'un, dans une relation étroite pour essayer de régler un problème, on est piégé, on est pris, quoi qu'il arrive, par l'effet Rosenthal. Rosenthal, c'est un psychologue qui a montré par des expériences extrêmement intéressantes que l'idée que l'un a sur l'autre va influencer cet autre. Je m'explique. Si vous pensez que votre voisin, c'est quelqu'un de sympa, de bien, de prêt à vous aider, etc., au bout d'un moment, il va se comporter comme ça envers vous. Parce que votre idée sur lui va se transmettre non verbalement et que quelque part, ça crée le chemin pour se comporter de la manière dont vous vous attendez à ce que le voisin se comporte. Si vous pensez que c'est un sale con, dangereux et paranoïaque, au bout d'un moment, il va se comporter comme un sale con, dangereux et paranoïaque. Parce que, en fait, tous les messages que vous allez envoyer quand vous êtes en interaction avec lui, messages non verbaux, et verbaux éventuellement, mais non verbaux, vont l'inciter à se positionner différemment dans la relation avec vous. Rosenthal a montré des choses absolument ahurissantes, comme par exemple l'expérience suivante. Il dit à un groupe d'étudiants, vous savez, en fac de psycho, assez souvent on fait des études avec des rats, etc. Alors il leur donne un groupe de 6 rats Et puis il leur dit, voilà, ceux-là, ils sont vachement sélectionnés, ils sont extraordinaires, ils ont vraiment des capacités formidables. Et puis ensuite, il prend un autre groupe d'étudiants et il leur donne 6 rats en leur disant, vous savez, ces rats, ils sont, c'est le bas du panier, il n'y a vraiment rien à entendre, rien à attendre, on verra ce qu'ils feront dans l'expérience du labyrinthe. Naturellement, les rats étaient choisis au hasard. Or, le groupe de rats sélectionnés comme étant les meilleurs ont eu des résultats formidables, et le groupe de rats sélectionnés comme étant vraiment nuls ont eu des résultats totalement nuls. Il y a même certains rats qui n'ont même pas pris le départ. Et ce n'était pas des résultats faussés par l'observation, c'était des résultats objectifs, le temps qu'ils avaient mis pour sortir du labyrinthe, etc. Ça veut dire que l'a priori que les étudiants avaient sur ces animaux a influencé le résultat de ces animaux. Secondairement, on s'est aperçu que les étudiants qui croyaient qu'ils avaient des rats très pointus, très intelligents, les ont entourés de beaucoup plus d'attention, de caresses, etc., ce qui n'était pas le cas dans l'autre groupe. Bon, déjà, une influence totalement étonnante. Rosenthal a montré aussi, en faisant le même genre de test, en faisant que des instituteurs avaient eu, soi-disant par erreur, les résultats des tests de QI des enfants dont ils allaient s'occuper, et résultats qui donnaient 20% à peu près de la classe qui était vraiment avec un très bon potentiel, alors que ça avait été distribué au hasard. Et ces 20%, dont la seule variable c'était que le prof s'attendait à ce qu'ils aient des bons résultats, ont eu des nettement bons résultats, nettement meilleurs. Et ce n'était pas seulement parce que le prof les a mieux notés, puisque des tests de QI passés plus tard ont montré que ces 20%-là avaient augmenté au niveau des tests de leur QI. Autrement dit, la variable qui consiste à avoir une idée a priori sur quelqu'un favorise le fait que ce quelqu'un corresponde à cette idée. Si vous avez un thérapeute qui est persuadé, qui sait, qui croit, qu'il a eu l'expérience que le client est quelqu'un qui a des tas de possibilités, des tas de compétences, qu'il suffit de les trouver, que si ça se trouve, il va beaucoup changer grâce à la thérapie, eh bien, ça favorise le résultat. Et inversement, si vous avez un psy qui se dit, oui, mais alors attendez, avec l'étiquette psychopathologique que j'ai posée dans le DSM-5, visiblement, il est très très handicapé, eh bien, ça va favoriser la difficulté, enfin favoriser, ça va amener une difficulté pour le patient qui consulte à changer et à se voir autrement. Ce qui veut dire que le regard que le thérapeute a sur les gens qui le consultent et la façon dont il les aborde est un des éléments fondamentaux. Alors, à quoi bon, comment est-ce possible d'avoir une approche scientifique là-dessus, quoi? Eh bien, c'est un élément dont il faut tenir compte. Il y a les Américains qui aiment bien mettre les choses en ordre. Ils ont fait des tas d'études sur l'alliance, sur le concept de l'alliance entre le thérapeute et le patient. Ils ont eu des résultats très étonnants, très intéressants. Je ne vais pas vous les détailler ici, mais comme quoi l'alliance est un phénomène capital, quoi, hein. C'est-à-dire que c'est le meilleur facteur prédictif des résultats du traitement. S'il y a une bonne alliance avec le psy, avec le thérapeute, quel qu'il soit, à la limite, si les deux y croient, si le thérapeute est plein d'a priori positifs sur ce qui va se passer, même s'il ne les dit pas, bien entendu, hein, parce que s'il les dit, il risque de freiner ça, mais s'il ne les dit pas, mais qu'intérieurement il les a, et si le patient est persuadé qu'il est au bon endroit avec avec un bon thérapeute et une bonne approche, eh bien, 40% du résultat tiennent à ça, tiennent au fait que y a une bonne alliance dès le début. D'où le fait, incroyable, mais étonnant, mais en même temps juste, que toutes les thérapies peuvent produire des témoignages montrant que leurs clients, leurs patients ont beaucoup changé grâce à cette thérapie. Sauf que, si ça se trouve, ils ont beaucoup changé avec ce thérapeute-là parce qu'il a une qualité d'être et une qualité de présence qui favorise son savoir-faire et son savoir, mais qui en fait est surtout l'élément fondamental. Et que du coup, on va avoir des thérapies qui auront toutes des résultats, sans que ça puisse nous dire à nous, hein, qui allons consulter, qu'est-ce qui va être le plus adéquat pour nous. Alors, il y a quand même une nuance, à mon avis, et puis je vais vous en détailler un peu plus ça dans le futur. Il y a quand même une nuance, et toutes les thérapies ne donnent pas des résultats qui tiennent. Il y a des thérapies, en particulier toutes celles qui sont basées sur l'effet placebo, sur le fait qu'on y croit et que vraiment, du coup, ça suscite en nous des énergies de guérison. Toutes ces thérapies-là ont d'assez bonnes chances que le changement qui a été initié par la thérapie ne tienne pas dans le temps. Parce qu'en fait, ce qui a changé, c'est la croyance et le fait de retrouver l'espoir et de retrouver la confiance dans le fait qu'on va y arriver, mais les soubassements n'auront pas été traités et du coup, quelque part, ça va pas tenir. Mais malgré tout, il faut quand même savoir que cette question du lien avec le psy est un élément fondamental. Le placebo, on y reviendra, c'est un effet extrêmement intéressant. Donc après ça, vous allez me dire, bon ben d'accord, je suis bien avancé de savoir que c'est très compliqué de s'y retrouver dans les psys, que c'est très compliqué de s'y retrouver dans les centaines de thérapies, que c'est très compliqué de faire la part de l'alliance avec le thérapeute et que celui-ci soit suffisamment au point pour être le psy dont j'ai besoin. Donc, consulter les sites, voir si la personne a fait un travail thérapeutique sur elle-même et voir quelle est sa pratique. Et ensuite, il va falloir que vous alliez voir quel est le type de pratique et qu'est-ce que ça donne. Alors le problème, c'est que quel que soit le type de pratique que vous allez visiter, ils vont tous vous donner des bons résultats. Il y a depuis les plus inhabituels jusqu'aux plus classiques. Vous allez avoir des gens qui ne jurent que par l'urinothérapie. Alors ils vont vous dire, il faut boire votre urine du matin et ça va guérir tout. Ils témoignent, il y a des tas de témoignages, ça m'a guéri formidablement. Vous avez des gens qui vont vous dire, oh ben, il faut se tapoter certains endroits du corps en se pardonnant d'avoir telle et telle chose et ça guérit. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, il faut faire un stage où vous allez hurler la douleur que vous avez en vous de façon à vous en libérer. Vous allez avoir donc des tas d'exemples. Eh bien là, il va falloir sentir ce qui vous paraît le plus pertinent, ce qui vous paraît à la fois suffisamment cohérent et scientifique et suffisamment balisé. Hein. Est-ce qu'on peut s'intituler thérapeute en quelques séances? Bon, faire du Reiki en quelques séances, faire je ne sais quoi. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu à la radio une personne qui disait, moi je suis art-thérapeute. Ah bon? Oui. Alors, comment vous pratiquez? Eh bien, je fais faire aux gens qui viennent me voir du coloriage sur des dessins préalables, comme on le faisait étant enfant, en s'en dépassant, bien comme il faut, avec des jolies couleurs. Et ça les apaise beaucoup parce que pendant ce temps-là, ils pensent plus à rien et ils sont vraiment très bien. Et donc, elle n'avait pas fait de formation ni quoi que ce soit, ni de travail personnel, ni de supervision encore moins, ni... Elle s'était baptisée art-thérapeute. Bon, Il y avait certainement des gens qui étaient très contents de faire du coloriage et que ça les calmait pendant un moment, mais est-ce que c'est ça que vous cherchez? Non. Bon, alors, vous l'aurez compris, toutes les psychothérapies ou les thérapies de toutes sortes, depuis les plus incroyablement farfelues jusqu'aux plus rigoureusement scientifiques, peuvent attester de résultats positifs, peuvent produire des témoignages positifs, etc. Comment ça se fait? Ça tient à une chose simple de mon point de vue, c'est que toutes ces thérapies ou psychothérapies ont des résultats du fait de facteurs communs, non spécifiques, qui ne sont pas dépendants de telle ou telle méthode. C'est des facteurs communs, non spécifiques. Il y en a quatre à mon point de vue. L'effet placebo, l'effet Rosenthal, l'alliance et la motivation. Alors, l'effet placebo, ça se déclenche dès que les deux croient fermement que ça va être efficace au point de vue guérissant. L'effet Rosenthal se met en place quand le thérapeute est intimement convaincu que le client a des capacités pour s'en sortir, même si celles-ci ne sont pas apparentes. Donc l'effet placebo, l'effet Rosenthal. L'alliance, je vous en ai déjà parlé, c'est un élément fondamental aussi parce que ça permet de retrouver l'espoir, le sentiment qu'on va s'en sortir, etc. Et elle tient à une certaine qualité de présence du thérapeute, entre guillemets, c'est-à-dire en général qu'on trouve assez couramment à base de bienveillance, de respect et d'empathie. Et le quatrième point, après l'effet placebo, l'effet Rosenthal et l'alliance, c'est la motivation. Évidemment, s'il y a une motivation forte et que la personne a vraiment envie de s'en sortir parce qu'elle en a ras-le-bol de cette souffrance et de cette difficulté, ça aussi c'est un facteur de mobilisation vers la guérison. Donc ces quatre points sont des facteurs communs non spécifiques. Comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec ou le savoir ou le savoir-faire du thérapeute. C'est non spécifique. Ces facteurs indépendants, non spécifiques, vont amener une mobilisation et une guérison relative, mais le biais cognitif qui va s'installer, c'est que aussi bien le client que le thérapeute vont attribuer ça à la méthode employée. Autrement dit, bien que ce soit des facteurs non spécifiques, chacun des deux pense que c'est la méthode employée qui est merveilleuse. D'où le fait qu'il y ait tellement de thérapies de toutes sortes. On disait qu'il y en avait presque jusqu'à 400. À la limite, on pourrait en avoir 1000, puisqu'il suffit que quelqu'un ait découvert quelque chose qui lui fait du bien, qui l'aide à s'en sortir, et puis qu'il érige ça en supposée méthode et qu'il convainque des gens que ça va les aider, pour que ça soit une méthode de plus. Et à ce moment-là, du coup, bon, c'est pas forcément mauvais, ça part d'un bon sentiment, le désir de faire connaître quelque chose qui a été intéressant, efficace, etc. Mais en même temps, ça repousse encore le moment de découvrir quel est le noyau dur non spécifique de telle ou telle méthode psychothérapique qui serait nettement plus efficace. Alors évidemment, si on pense que toutes les méthodes donnent des résultats, à ce moment-là, ça revient à dire aucune n'est spécialement valable, toutes se valent. Eh bien, à mon avis, c'est une erreur. Et ce qu'on pourrait se dire, c'est que s'il y en a une, ou plusieurs, ou quelques méthodes dont les résultats sont nettement supérieurs aux facteurs communs non spécifiques, à ce moment-là, on pourrait réduire les 400 types de thérapie à quelques-unes seulement, puisque finalement, ce seraient les quelques-unes qui auraient un noyau dur suffisamment reconnu et suffisamment perceptible pour que ça donne des résultats valables. Eh bien, on peut reconnaître, à mon avis, ce type de thérapie a deux choses. D'une part, cela donne des résultats durables. L'approche thérapeutique amène un changement durable dans le temps, et ce changement durable est issu de la découverte par le client de nouvelles capacités désormais utilisables. Eh bien, on pourrait dire qu'une psychothérapie ou quelques psychothérapies vraiment efficaces peuvent atteindre ce résultat, c'est-à-dire que ça soit après un contact direct avec la source de la douleur, avec la source des symptômes, avec la source des conflits, bref, un contact, il faut aller au contact de cette partie qui souffre. Ensuite, il s'agit de trouver comment résoudre ce qui est en train de se passer et qui est source des symptômes. Et en dernier lieu, il faut que la personne s'approprie les capacités qu'elle vient de découvrir. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas que c'est à cause du thérapeute ou à cause de la méthode, mais qu'elle découvre qu'elle-même est capable désormais de faire comme ça. Donc elle va au contact, elle trouve des moyens nouveaux et elle s'approprie désormais les capacités qui en découlent. Ça me paraît être la formule qui permettra de comprendre pourquoi une psychothérapie est différente de tout simplement le fond commun non spécifique, les facteurs communs non spécifiques.